tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Marie-Christine de Vels, avec Simon Martin à la technique. Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Madame Judith Doré, présidente de notre conseil presbytéral. Bonjour Judith.
Bonjour Marie-Christine. Alors nous continuons nos méditations dans l'Évangile selon Marc. Et aujourd'hui nous sommes dans Marc chapitre 12, le récit de l'offrande de la veuve. Nous sommes dans la dernière partie de l'Évangile. Jésus est à Jérusalem. La fin est proche et dans quelques jours, ce sera la passion, la crucifixion.
Ici, nous retrouvons Jésus dans le temple où il enseigne.
Mais avant de lire le texte, je vous invite à la prière d'illumination. Seigneur, permets-nous de déposer quelques minutes nos soucis, nos tracas, nos fardeaux, et de faire silence pour être à l'écoute de ta parole. Viens ouvrir nos cœurs et nos intelligences pour que chacun de nous aujourd'hui puisse entendre une parole de toi. Une parole qui nous fait réfléchir, qui nous remet debout, qui met en route, une parole d'espérance. Amen. Alors Marie-Christine, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 44.
Dans son enseignement, Jésus disait « Prenez garde aux scribes qui tiennent à déambuler en grande robe, à être salués sur les places publiques, occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Eux qui dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement, ils subiront la plus rigoureuse condamnation. » S'étant assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. De nombreux riches mettaient beaucoup. Vint une veuve pauvre qui mit deux petites pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit « Amen, je vous le dis, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le tronc. Car tous ont mis en prenant sur leur superflu, mais elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. »
Merci. Jésus est dans le temple et il enseigne. Les grands prêtres et les scribes qui cherchaient à piéger Jésus ont disparu de la scène et Jésus n'a plus d'interlocuteur en face de lui. Et au début de notre passage aujourd'hui, nous avons un court épisode où les scribes sont critiqués. L'intention de l'évangéliste semble d'être de dénoncer la recherche d'honneur, de cupidité et d'hypocrisie des autorités religieuses. Ils cherchent les honneurs dans les places publiques et aussi dans les synagogues. Ils se pavanent dans de longues robes. Et à leur vanité s'ajoute la cupidité et l'hypocrisie. L'identité des scribes semble se construire sur un certain nombre de marqueurs identitaires religieux, plutôt que sur la foi en Dieu, qui permet de se tenir debout dans la prière et de vivre le pardon. Jésus critique ouvertement les scribes.
On peut même dire que c'est une sévère mise en garde contre les scribes que Jésus prononce.
Et la foule en jubile.
Dans le verset 37, juste avant notre passage, on peut lire « Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. »
Les attitudes de scribes décrites dans ce passage constituent l'inverse de ce que Jésus attend de ses disciples. Comme nous pouvons voir au chapitre 9, verset 35, Jésus demande à celui qui veut être son disciple d'être le dernier de tous et le serviteur de tous.
Thank you.
Les scribes sont critiqués pas seulement pour leur hypocrisie, mais aussi parce qu'ils s'emparent des biens des veuves.
Et c'est ce qui nous permet de faire le lien avec cette histoire donc qui suit.
Deux petites pièces jaunes qui ne valent presque rien et qui font parfois grimacer les personnes qui comptent la collecte à la fin du culte ou de la messe. Mais deux petites pièces qui ont pourtant de la valeur. Jésus est dans le temple où il enseignait et il s'assied en face de la boîte d'offrande, le tronc, à regarder comment les gens ordinaires, la foule, donne de l'argent. Il voit défiler diverses personnes, des riches, des pauvres, des gens ni riches ni pauvres, des gens comme vous et moi. Beaucoup de riches mettaient beaucoup, nous dit le texte. C'est une constatation avec une répétition, une insistance. Puis vient une veuve pauvre qui met deux petites pièces. Et une veuve est forcément pauvre à l'époque de Jésus. Elle ne peut pas gagner sa vie. Elle est dépendante. Donc c'est redondant de rajouter l'adjectif pauvre. C'est pour insister, comme la répétition de beaucoup. Évidemment, à la première lecture, on peut y voir une petite histoire moralisante qui constate que la petite somme correspond à l'essentiel de la substance de la veuve, alors que la somme importante donnée par les riches est une part infime de leur richesse.
Elle donne donc de son essentiel, alors que les riches donnent de leur superflu.
Mais cette histoire n'est pas seulement une leçon de morale sur la générosité. Il faut tenir compte du contexte dans lequel Marc glisse cette histoire. Juste avant, Jésus a disqualifié les autorités religieuses de Jérusalem. Et tout de suite après, il parle de la destruction du temple. La scène attire l'attention sur le contraste entre l'attitude des riches qui mettent beaucoup d'argent dans le tronc du temple et la veuve qui met une somme très modeste. Et Jésus appelle ses disciples pour commenter ce qu'il vient de voir. Et il commence avec ces mots solennels « Amen, je vous le dis ».
Et cela signale qu'il veut dire quelque chose d'important.
Ça laisse entendre que l'attitude de la pauvre veuve les concerne et qu'ils ont quelque chose à apprendre, qu'ils peuvent en tirer une leçon. On note que Jésus ne félicite pas la veuve, il ne porte pas de jugement moral sur son geste. Il relève seulement que la veuve a donné plus que les riches. Les riches ne s'engagent pas vraiment. Ils ne jouent pas leur vie alors que la veuve donne tout. Elle a donné de son manque, indigence. Le texte grec dit « Elle a jeté tout ce qu'elle avait, sa vie entière. » Encore une répétition. Ce qui suggère une interprétation symbolique. En fait, le geste de la veuve est absurde. Si on regarde le contexte dans le chapitre suivant, on parle de la destruction du temple. Il n'en restera pas une seule pierre posée sur une autre. Donc son geste est inutile. Elle est prisonnière d'un système de valeurs qui l'incite à donner tout ce qu'elle possède. Ensuite, elle n'aura plus rien pour vivre. Et ceci pour un édifice dont les représentants les scribes sont disqualifiés. Jésus les accuse dans la première partie du texte que Marie-Christine vient de nous lire de spolier les veuves.
En plus, le temple est destiné à être détruit complètement. Donc c'est l'absurdité absolue.
Mais on peut voir dans le geste de la veuve une parabole de la mort de Jésus. Inutile et absurde, et pourtant source de vie véritable. Dans la logique du monde, Le geste de la veuve est absurde, mais il peut être source de vie dans la logique du royaume. Jésus aussi va faire don de sa vie.
Oh.
Et comment est donc le regard de Jésus lorsqu'il se pose sur nous au moment où nous donnons?
Le regard scrutateur du Christ ne perd pas une miette de nos vies. Aussi regarde-t-il le rapport entre nos dons et ce que nous avons à donner. Mais il ne regarde pas par-dessus notre épaule au moment de la collecte, où nous sommes parfois un peu gênés. Jésus sait ce que nous avons reçu, et ce que nous donnons relève d'une comptabilité intime. Notre superflu et notre essentiel ne sont connus que de Dieu. Qui suis-je, moi, dans l'histoire? Le petit dans la foi ou le scribe qui dépouille et qui se plaît dans les honneurs? Quand nous donnons, essayons de regarder comment on donne. Essayons de donner de notre essentiel, de notre vie, au service de Dieu. Parfois, nous donnerons de notre abondance, mais essayons d'y mettre du sens, de faire des dons pour les autres et pour le service de Dieu. L'essentiel, c'est le lien avec Dieu et avec le Christ. Nos offrandes, qu'elles soient importantes ou très modestes, cela n'a pas d'importance. L'Église en a besoin pour vivre, pour annoncer l'Évangile, pour l'enseignement des enfants et plus concrètement pour payer les pasteurs et les prêtres, pour avoir des bâtiments confortables où il fait bon se retrouver. Oui, tout cela est vrai, on a besoin d'argent. Mais je répète, l'essentiel est ailleurs. C'est notre relation avec Dieu, avec le Christ qui nous fait vivre et l'amour du prochain en découle. C'est parce que nous avons une relation avec le Christ que nous faisons des dons.
Mais nous n'offrons pas seulement de l'argent, nous faisons aussi le don de notre temps et le don de notre vie.
Quand nous faisons un don, déposons notre reconnaissance. Notre reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu, vécu, partagé. Nous déposons peut-être, comme la veuve, tout notre être aussi, tout ce qui fait notre identité. Nous déposons nos joies, nos peines, nos difficultés, nos qualités, nos doutes. Nous déposons une part de nous-mêmes. Placer notre vie devant Dieu nous éloigne de toute hypocrisie, des savoirs orgueilleux. Placer notre vie devant Dieu nous renvoie à l'essentiel. Placer notre vie devant Dieu nous ouvre à la liberté pour que nos dons, nos gestes, nos paroles nous engagent tout entiers. Amen.
Et avant de terminer cette émission, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est vérité. Merci de nous en instruire. Permets que nous sachions tous trouver les gestes qui redonnent vie et espérance. Permets que nos égoïsmes ne soient pas encouragés par l'ambiance du monde et qu'au contraire, nous devenions généreux et solidaires. Permets que nous n'oublions pas que même petits et pauvres, nous pouvons offrir beaucoup si c'est de tout notre cœur. Seigneur, merci de nous offrir le tien. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres et nous serions très heureux de vous y accueillir. Merci Judith pour cette méditation.
Merci Marie-Christine.
Au revoir et à bientôt.
Au revoir.
Respira.